Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le professeur Raphaël Pitti revient d'une mission humanitaire en Syrie. Pour lui, c'était la 30e. Depuis le début de la guerre en 2011, l'anesthésiste réanimateur y forme des soignants à la médecine d'urgence dans les divers centres mis à sa disposition et qui, tous, ont été touchés par des bombardements ou par les combats au sol. Depuis 2016, il officie dans le même centre qu'il a largement contribué à installer. Quel regard porte-t-il sur la Syrie après 10 années de guerre civile ? Le médecin humanitaire témoigne d'une situation catastrophique, tant pour les populations locales que pour les conditions de vie quotidiennes. Il constate également l'état extrême de délabrement non seulement du système de santé, mais aussi de toute l'économie dans les régions du nord et du nord-est syrien où il intervient. Ancien médecin de l'armée dans les commandos de marine, né en Algérie dans une famille d'immigrés italiens, aujourd'hui installé en Lorraine, Raphaël Pitti constate qu'il n'a pas de racines. Il confesse, je cite, qu'il aime la diversité, toujours enrichissante, et tant qu'il marche sur terre avec le ciel au-dessus de lui, il est chez lui. Vous pourrez réécouter cet entretien sur notre site www.rfi.fr ou en podcast avec notre application Pure Radio, application à laquelle vous pouvez vous abonner. Bonjour Raphaël Pitti.
Bonjour Éric Bataillon, bonjour, merci de me laisser témoigner.
Je vous en prie, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur spécialiste de l'urgence et vous rentrez d'une mission en Syrie pour le compte de l'Union des organisations des secours et soins médicaux, l'UOSSM, avec votre confrère Zouer Lana, qui lui est gynécologue obstétricien. Raphaël Pitti, ce n'est pas la première fois que vous effectuez ce genre de mission en Syrie, est-ce que cela devient une routine pour vous ?
Non, ça n'est pas une routine du tout. Ça a été le 30e voyage pour moi, sur 9 ans, puisque ma première mission date de 2012. Et c'était dans la zone près de Idlib, en tout cas de Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Et puis, je dois dire qu'à chaque fois, c'était tout à fait particulier. Bien souvent, et le plus souvent, ça a été des rentrées en Syrie de manière clandestine. Là, les choses sont un peu plus simples en passant par l'Irak. Mais ça reste toujours problématique parce que la situation reste toujours très incertaine.
Oui, c'était ma question. Il ne s'agit pas de missions officielles et vous rentrez parfois clandestinement dans cette région. Et justement, ma question, c'était à partir de quel territoire ? Est-ce la Turquie ou l'Irak ?
Alors, ça a été longtemps par la Turquie. Maintenant, vous le savez, la Turquie s'est séparée de la Syrie par un mur de 4 mètres de haut sur plus de 900 kilomètres. Et il y a des passages obligés qui sont des postes frontières. Il reste maintenant que de pouvoir passer que par l'Irak, c'est-à-dire par Erbil, et puis on va à Peshawar et on traverse le Tigre pour pouvoir rentrer en Syrie.
Mais pour cette 30e mission, il y a quelques jours, c'était une mission plus ou moins officielle. Comment êtes-vous parti sur place ?
Écoutez, on ne dirait pas totalement officiel au sens de ces missions, mais en tout cas c'est officialisé au sens où je décline mon identité, ce qui n'était pas le cas de l'autre côté, et je passe avec des autorisations. Bien évidemment, ça n'est que sous ma seule responsabilité, puisque le gouvernement français me prévient bien évidemment que nous sommes dans une zone qui est considérée comme dangereuse, rouge, et qu'a priori, les autorités françaises ne me couvriraient pas s'il devait arriver quelque chose.
Justement, Raphaël Pitti, dans quelle région de Syrie étiez-vous précisément et auprès de quelle communauté locale ?
Alors, nous sommes dans le nord-est de la Syrie. On pourrait considérer cette zone qui avait été occupée par Daesh. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le Kurdistan syrien, bien évidemment. Mais cette fois-ci, nous sommes descendus très bas. Nous sommes allés jusqu'à Al-Hol, c'est-à-dire Raqqa, Al-Hol, dans des zones qui sont plutôt arabes que kurdes.
Et cette fois-ci, quel était l'objectif de votre voyage ?
Depuis 2016, nous avons ouvert un centre de formation qui se trouve dans la ville de Derik. Ça aura été le 4e centre de formation sur ces 9 années. Le premier est à Bab el-Hawa, c'est-à-dire dans le nord-ouest de la Syrie, à la frontière syro-turque, mais du côté syrien. Et ce centre continue de fonctionner, ce centre de formation continue. Nous avons eu ensuite un autre centre qui se trouvait dans la petite ville de Harsal, à la frontière syro-libanaise, du côté libanais cette fois-ci, mais dans une petite ville sunnite dans la plaine de la Bekaa, et qui était assez compliqué pour nous pour atteindre la ville de Harsal, mais elle avait l'avantage d'être une ville ouverte directement sur la Syrie et les médecins de la Routa, les médecins syriens, sortaient clandestinement pour venir dans ce centre. Et lui-même était un centre clandestin dans un appartement de 5 pièces qui nous servait le jour de centre de formation, la nuit de centre d'hébergement où nous vivions tous ensemble. Nous avons tenu dans cette clandestinité pendant 18 mois. Et puis la ville de Harsel a été bombardée et attaquée par le Hezbollah, protégée par l'armée libanaise qui a perdu des hommes d'ailleurs. Et pour nous, il nous a fallu nous retirer de cette ville. Après, nous avons tenté de rouvrir un nouveau centre de formation à la frontière syro-jordanienne, ce qui a été possible grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères française pour avoir les autorisations au niveau de cette frontière. Mais c'est le renseignement jordanien qui nous en a empêchés parce qu'il exigeait de connaître les identités des médecins syriens qui sortaient pour venir en Jordanie dans notre centre. Et là, le quatrième depuis 2016, le quatrième centre de formation qui est à Derik maintenant et qui fonctionne très très bien, qui est dans un hôpital régional pour lequel on nous a mis à disposition une aile de l'hôpital qui était un ancien service de néphrologie que nous avons entièrement rénové et nous avons à peu près 11 personnes qui travaillent dans notre centre.
Et quel genre de formation dispensez-vous à ces personnes et quel type de personnes formez-vous ?
Alors essentiellement du personnel médical, c'est ce que nous avons fait depuis 2013. Quand je suis allé en 2012, la première fois, dans la petite ville de Dana, qui se trouve à environ à 40 km à l'ouest d'Alep, j'ai travaillé dans ce petit hôpital qui a été bombardé le troisième jour. L'hôpital entièrement détruit, avec mes collègues, nous sommes partis ensuite dans une autre ville, qui est Al-Bab, un peu au nord-est d'Alep. Dans la ville, cet hôpital avait déjà été détruit, et j'ai travaillé dans un hôpital clandestin. De cette expérience, de cette première expérience, en Syrie, j'ai constaté à ce moment-là que mes collègues syriens n'étaient pas préparés à toute la pathologie de guerre, n'étaient pas préparés aux afflux massifs de patients, ne savaient pas trier, ne savaient pas protocoliser leurs soins, ne savaient pas prendre en charge la douleur d'une manière aiguë, comme nous le faisions habituellement sur la base de protocoles. Et donc, force de constater qu'il était nécessaire de les former à cette situation. La guerre en Syrie étant une guerre urbaine, essentiellement, les hôpitaux civils étaient directement impactés par la guerre. Et donc, aux pathologies habituelles que reçoit un hôpital, venaient s'agglutiner de temps en temps, et souvent bien plus souvent, des malades, des afflux de victimes, aussi bien des civils que les propres rebelles qui venaient se faire soigner. De ce fait, le régime, dans les zones qui étaient occupées par les rebelles, le régime a toujours ciblé les hôpitaux pour terroriser les populations, pour faire fuir les populations de ces zones. Et les personnels soignants qui étaient arrêtés, qui étaient soit tués, soit torturés, en tous les cas, se retrouvaient enfermés. Et ça a été vraiment une situation de crime de guerre, de crime contre l'humanité durant ces 10 années où constamment les hôpitaux étaient l'endroit le plus dangereux qui puisse exister parce que jamais certains de pouvoir continuer de fonctionner. Et tout médecin, tout personnel soignant qui rentrait dans un hôpital pouvait très bien considérer qu'il ne verrait pas la fin du jour.
Quoi. Oui, il était une cible.
Et donc, c'était pour dire que c'est là où je me suis rendu compte qu'il était nécessaire de former mes collègues à cette pathologie de guerre, aux chimiques, etc. Vous me posiez la question à propos des cours. Quels cours ? Eh bien, les cours ont été nécessaires, ceux d'abord pour les secouristes, puisque 50% des victimes dans une situation de terrorisme, de catastrophe, meurent sur le terrain dans la première heure d'asphyxie ou d'hémorragie. Il a fallu former des infirmiers, il a fallu former des médecins, il a fallu former des chirurgiens à chirurgie de guerre, il a fallu former, quand le chimique a été utilisé, il a fallu former à la prise en charge des pathologies chimiques, que ce soit le sarin, que ce soit le chlore, que ce soit l'hyperite. Il a fallu aussi former à la prise en charge des blessés brûlés par le phosphore et par le napalm. Il a fallu former ensuite, il y a eu un départ massif de personnel soignant, il a fallu former des infirmiers, il a fallu former des sages-femmes, il a fallu former des internes de spécialité qui prenaient la place des compétences qui partaient, il a fallu les former aux différentes pathologies qu'ils pouvaient rencontrer, eux. Et donc, ça a été constamment de nous adapter à la situation telle qu'elle évoluait dans les hôpitaux pour essayer de maintenir un niveau technique suffisant. Parce que l'hôpital devenait aussi un élément important pour stabiliser les populations. Si l'hôpital était détruit, en même temps qu'il y avait cette violence, on voyait s'enfuir les populations. Et vous le savez, avec les 6 millions de Syriens qui sont maintenant à l'étranger.
Justement, Raphaël Pitti, avant d'être engagé dans des missions humanitaires, vous étiez, je crois, médecin de guerre dans les commandos de marine. Était-ce différent de vos missions actuelles ? Cela semble très proche.
Oui, pour moi, c'est certain, qui ai fait toute une carrière dans l'armée française. Alors, j'ai commencé comme médecin des commandos marines, Mais après, j'ai été anesthésiste réanimateur et j'ai été souvent dans des antennes médico-chirurgicales aéroportées. Et ça m'a permis d'être à Sarajevo, ça m'a permis d'être dans des conflits africains, ça m'a permis d'être dans la première guerre du Golfe, etc. Et de ce fait, ma compétence universitaire, puisque je suis professeur de médecine d'urgence et de catastrophe, ma compétence universitaire a été dans l'armée en particulier de former les médecins militaires à justement la pathologie de guerre et à ces techniques qui sont propres à la situation de catastrophe, à la situation de guerre. Et donc, quand je suis allé, j'ai quitté l'armée en 2004, quand je suis allé en Syrie la première fois, eh bien, c'est évident que la seule façon pour moi d'aider mes collègues en Syrie qui souffraient de ces bombardements, qui souffraient de cette situation qui leur a été faite, c'était de les aider en les formant.
Orient Hebdo sur RFI.
Avec nous par téléphone depuis Metz, en Lorraine, le médecin anesthésiste Raphaël Pitti, de retour d'une 30e mission humanitaire dans le nord-est de la Syrie. Une question concernant la pandémie du coronavirus, ajoute-t-elle de la confusion à la situation actuelle selon vous ?
Bien évidemment, on est dans une situation de grande catastrophe humanitaire. On l'est déjà depuis plusieurs années, depuis le début bien évidemment en Syrie. Mais cela s'est accentué d'une manière très importante pour... Beaucoup de raisons. Il y a d'abord l'effondrement d'un système sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, en Syrie, on peut prendre en charge des pathologies qui sont des pathologies plutôt aiguës, éventuellement, mais en tout cas, les pathologies, la médecine préventive n'existe pas et la médecine qui assure le suivi des pathologies chroniques ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. Il y a un personnel médical qui est insuffisant par rapport à l'ensemble de la population, surtout dans le nord-ouest, où il y a très peu de médecins, très peu de moyens de réanimation, très peu de spécialistes dans le nord-ouest. Il en est de même dans le nord-est de la Syrie, dans ce qu'on appelle le Kurdistan syrien. Dans l'hôpital où nous sommes, où nous avons notre centre de formation, il y a un hôpital de 200 lits, il n'y en a que 75 qui sont opérationnels. Et il y a d'ailleurs, les 75 sont regroupés dans une seule aile de l'hôpital parce qu'il manque de soignants, il manque de médecins, il manque de soignants. Il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas de soins continus non plus, il y a une maternité aussi. Chaque fois qu'ils ont un malade très grave, ils sont obligés de le renvoyer sur la seule ville qui a une réanimation. Encore peut-on pas vraiment parler de réanimation, mais plutôt de soins intensifs, qui est à Kamishli, à 1h30 de route. C'est dire un peu la situation telle qu'elle est en Syrie aujourd'hui. Sur là-dessus, vous rajoutez l'effondrement du système économique, vous rajoutez l'effondrement du système éducatif, vous rajoutez l'effondrement d'une société, puisque sur les 22 millions de Syriens, 11 millions sont déplacés à l'intérieur de la Syrie ou à l'extérieur de la Syrie. Et donc, on a un pays complètement détruit. Là, si vous rajoutez les conditions climatiques, la malnutrition, le Covid fait un effet de catastrophe. Il vient aggraver l'ensemble de cette situation sanitaire, et en particulier dans le Nord-Ouest.
Qu'est-ce que la situation actuelle en Syrie vous inspire aujourd'hui, Raphaël Pitti ?
Justement, ce que je disais à l'instant, une grande, grande catastrophe humanitaire de très grande ampleur. Et là, on a l'impression, c'est la dernière année, avec le Covid qui a atteint la pandémie mondiale, avec cette pandémie mondiale, on a l'impression que tous les pays se sont retirés et plus personne ne parle de la Syrie et de cette situation. Alors quand je parle de la Syrie, je pourrais aussi parler du Yémen, bien évidemment, ou d'autres régions du globe qui sont dans cette situation de pauvreté extrême. Mais la Syrie, pour moi, depuis ces 10 ans, c'est un peuple totalement martyrisé et qui subit aujourd'hui aussi le contre-coup de la crise économique qui sévit dans le Moyen-Orient, avec le Liban en particulier. La livre syrienne s'échange à 1 $ pour 4200 livres. De ce fait, les commerçants à l'intérieur de la Syrie n'ont plus assez de dollars pour acheter à l'extérieur de la Syrie. Or, tout s'importe. Les médicaments s'importent, la nourriture s'importe pour une large partie. Et donc ce pays, dans les mois qui vont venir, risque véritablement de la famine.
Les populations locales sont totalement dépendantes des missions humanitaires qui se rendent sur place ?
Oui, absolument, absolument. Elles sont totalement dépendantes. Elles ont besoin de cette aide. Et au même temps que nous subissons le retrait des subventions qui sont faites par les grandes institutions, nous avons de moins en moins d'argent et c'est vraiment un vrai problème. Même pour nous, l'USSM, nous avons énormément de structures médicales qui fonctionnent en plus de nos centres de formation. Et nous avons des hôpitaux, nous avons des cliniques mobiles, nous avons des centres de maternité, nous avons des centres dentaires, nous avons aussi des services de néphrologie, nous avons une réanimation néonatale. Tout ceci demande bien évidemment des moyens financiers et les grands donateurs tendent aujourd'hui à se retirer un peu par la situation même du Covid et la crise économique qui suit aussi nos pays occidentaux.
Le fait que ce soit la Syrie ajoute peut-être aussi au fait que les donateurs sont moins enclins à donner pour les associations, les ONG qui travaillent sur place.
Alors oui, c'est vrai, en particulier dans le Nord-Ouest, il y a 70 000 rebelles qui sont là. Et même la communauté européenne tend à ne plus vouloir nous financer pour les projets que nous pouvons développer là-bas, sous le prétexte que cela sert à financer les rebelles. Et en particulier le groupe le plus important, Salafis, qui est ex-Al-Nusra, Tahrir al-Sham aujourd'hui. Et ce qui est complètement faux, parce que nous avons, nous, des structures médicales dans cette région de l'Ouest, et a priori, nous ne donnons pas un seul centime aux groupes rebelles. Bien évidemment, les groupes rebelles ont besoin des structures médicales. Autrement, c'est une fuite des populations et il y aurait une instabilité. Elles ont donc besoin d'une population qui reste stable et qui ne vienne pas rajouter au chaos en se déplaçant. Donc, il n'y a pas un seul centime qui part de quelque manière que ce soit vers les rebelles et de toute façon, ils ne nous taxent pas non plus.
Raphaël Pitti, vous êtes né à Oran dans une famille d'origine italienne, dans ce qui était encore l'Algérie française. Ce passé personnel est-il le moteur de votre engagement ?
Certainement, oui, bien sûr. Certainement, d'une manière très importante. Je suis très proche de la culture arabe. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle ne m'est pas étrangère. Je m'y sens bien aussi. Il y a le fait que je sois aussi quelque part un migrant au travers de ma famille. Et j'aurais connu la guerre aussi. J'ai été réfugié en France à la fin de la guerre en 1962. Dans un premier temps, nous sommes partis avec toute ma famille, avec quelques valises. Mon père ne nous a pas suivis. J'étais avec ma mère. Nous avons pris un bateau où tout le monde était agglutiné à l'intérieur de ce bateau. J'ai traversé la Méditerranée. On s'est retrouvé dans une situation à Paris, à vivre à quatre dans une seule chambre. Et donc, je peux très, très bien comprendre ce que c'est qu'être réfugié. Je peux très bien comprendre ce que c'est être dans une situation de guerre. Je peux très bien comprendre ce qu'il peut y avoir à la fois d'être déraciné, de ses racines. Si ma culture, et je me sens très profondément français, vraiment très profondément sur le plan de ma culture, etc., il n'empêche que mes racines sont diverses. Elles sont italiennes, elles sont, je dirais, algériennes d'une certaine manière, et elles sont françaises. Et ça fait de moi quelqu'un qui se sent très universel.
Merci Raphaël Pitti.
Merci Eric Poincillon, merci beaucoup.
Médecin en humanité, comme le souligne un article du quotidien chrétien La Croix. Votre dernier livre, Va où l'humanité te porte, a été publié par les éditions Talendier en 2018.
Merci à vous.
Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. Portez-vous bien.
De voisins.
Emmanuel Bastide.